Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du martyr de Saint-Jean-Baptiste en particulier. C'est la commémoration de ce martyr étonnant qui a été porté sur la scène dans des opéras, qui a servi de sujet à d'innombrables artistes qui en ont fait des tableaux et des fresques. Car c'est un drame épouvantable, n'est-ce pas, que cet homme qui s'est fait trancher la tête et sa tête devient comme un trophée sur un plateau. Vous connaissez l'histoire. Mais nous allons parler de plusieurs saints aussi, car aujourd'hui, il y a des saints dont les vies sont assez brèves, mais quand même intéressantes. Sainte Sabine, qui a donné son nom à ce fameux temple, cette église basilique qui est administrée par les Dominicains à Rome. Il y a aussi un roi d'Angleterre du 7e siècle, Saint Seb. Saint Méry aussi, dont il est souvent question à Paris, parce qu'il y a une paroisse où l'on va assez facilement à Paris, Saint Méry. Il y a un Saint André, un Saint Richard, un Saint Alexandre. Alors je vous dirai quelques mots de ces différents saints, et ça fera changement avec des saints sur lesquels on s'étend durant toute l'émission, comme hier, Saint Augustin, ce grand Saint Augustin. Au microphone, Raymond Beaugrand Champagne. Alors, pour ce qui est du martyr de Saint-Jean-Baptiste, on sait fort bien que toute la vie de Jean-Baptiste tient en 9 mots latins que l'on citait souvent autrefois, et qu'il avait été porté au nu, si on peut dire, dans le sein de sa mère, qui était la cousine de la Sainte Vierge. Et ensuite, sa voix retentit dans le désert, et finalement, il fut décapité dans une prison. Exultatio in utero, vox in deserto, decollatus in carcere. Ce sont de vieux textes latins qui nous rappellent ces 3 événements de sa vie, qui sont les événements clés. On en a parlé le 23 juin dernier, la veille de sa fête, puisque sa fête tombait un samedi. Et alors donc, c'est le tressaillement de joie dès le sein maternel, la voix dans le désert, puis décapité en prison. Et ce prédicateur étonnant, on l'a pu le voir, hein, vous souvenez-vous dans Jésus de Nazareth, ce film où le comédien qui interprétait Jean-Baptiste était assez étonnant. Hein. Il avait une vigueur, une force que l'on trouve bien rarement chez nos prédicateurs, et je me demande si un de nos prédicateurs prêchait comme ça dans nos églises, si on l'écouterait vraiment, on penserait que c'est un peu trop. Mais Jean-Baptiste était comme ça. C'était un homme vraiment très courageux. Et il parlait toujours de ce qu'on appelle en grec la métanoïa. C'est un mot que certains d'entre vous qui ont fait des études de Bible, n'est-ce pas, on étudie de plus en plus l'Écriture sainte. Ce mot revient souvent, ça signifie tout simplement la conversion, c'est-à-dire le retournement. Quand il y a conversion, il y a retournement. On l'a vu hier avec saint Augustin, et on le voit d'ailleurs dans la vie de la plupart des saints, comme on le verra petit à petit, cette conversion magnifique chez Jeanne Jugan, demain, qui a fondé les Petites Sœurs des Pauvres. Et il annonce, Jean-Baptiste, le royaume de Dieu qui est proche. On trouve ça dans Saint Matthieu, chapitre 3. Et sa prédication, elle va dans 4 directions, si on peut dire, s'attache à la vérité. C'est un homme qui prêche la vérité en dépit de tout. Il sait qu'il va probablement être tué, mais il prêche quand même la vérité. Il s'attache aussi à la fécondité de la vie spirituelle, à la charité qui est nécessaire, puis à l'honnêteté qui va de pair avec la vérité. Et en Jésus, son cousin, Jean-Baptiste reconnaît le Messie. Et on répète dans les liturgies tant catholiques qu'anglicanes et dans d'autres liturgies chrétiennes, cette parole très belle de Jean-Baptiste quand il s'écrit en voyant Jésus, « Voici l'agneau de Dieu ». On dit ça à nos messes, mais je me demande jusqu'à quel point on comprend le sens profond de ça. Il faudrait y revenir au moment de la Semaine Sainte. « Voici l'agneau de Dieu ». L'agneau, c'est dans le sens l'être le plus innocent, le plus pur, dont le regard, jusqu'à un certain point, est rempli d'une grande tendresse, d'un grand amour. Et il baptise Jésus dans l'eau du Jourdain. Et on l'appelle d'ailleurs Jean le Baptiste. Hein, c'est celui qui baptise. Et vient ensuite pour lui le temps de diminuer. Il le dit d'ailleurs. Et de disparaître. Alors, il reproche au roi Hérode Antipas sa conduite avec Hérodiade. Et Hérodiade se venge en poussant sa fille Salomé à réclamer la tête de Jean-Baptiste, ce gêneur, ce prédicateur qui ne sait plus ce qu'il dit. Car Hérodiade est vraiment irrité par les injures qui sont adressées à son mari, son deuxième mari. Et Jean-Baptiste va être décapité. En somme, la mort du plus grand des prophètes devient tout simplement une espèce de récompense, un petit salaire d'une danseuse. Tout ça a servi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à des spectacles qui sont souvent très curieux, très étranges et peu profonds, qui ne nous enseignent pas vraiment les vraies choses. Mais si on écoute très attentivement, on s'attache pas trop aux danses que l'on prolonge sur la scène et que l'on réfléchit vraiment au drame qui se déroule, on peut méditer avec l'Évangile. En somme, on eût dit qu'Hérode, qu'on disait le grand, avait immolé des innocents, le massacre des innocents. Son propre fils, Hérode Antipas, sacrifie, lui, Jean, qui est considéré comme le proto-martyr, le premier martyr, celui qui trace la voie à tous ces martyrs chrétiens, comme il y en a encore même aujourd'hui, et combien, en ce 20e siècle, certains observateurs, certains historiens du christianisme disent qu'il y a eu plus de martyrs au 20e siècle, au nom de la foi chrétienne, tant dans la grande église orthodoxe russe que dans les autres églises orthodoxes autocéphales, c'est-à-dire qui sont autonomes, que dans l'église catholique des différents rites, et dans les grandes églises chrétiennes, y compris les baptistes et tout ça, tant de chrétiens qui ont été martyrisés au XXe siècle. C'est incroyable. Donc, du sang de Jean-Baptiste, qui scelle sa foi en Jésus, on peut rendre un grand hommage. Nul n'est plus grand que le Baptiste. Ça a été dit et redit. Nul n'est plus grand que Jean-Baptiste, hormis, évidemment, Jésus et Marie. Flavius Joseph, un très grand historien du peuple juif, n'est-ce pas, dans les Antiquités juives, j'ai une très vieille édition de Flavius Joseph qui date du début du XVIe siècle, je me plais à le lire dans le texte latin de l'époque pour retrouver, des fois ça me prend du temps, les textes qui concernent le christianisme. Et on retrouve dans ce texte de Flavius Joseph qui, on dit qu'il est apparu en l'an 93-94, on lit ceci. Hérode a mis à mort cet homme excellent, Jean-Baptiste, qui exhorte les Juifs à s'appliquer à la vertu, à pratiquer la justice les uns envers les autres et la piété envers Dieu, et à recevoir le baptême d'immersion. Puisque tout le monde se rassemble autour de lui, le monarque croit préférable de devancer les événements et de le faire périr. À la suite de ce soupçon d'Hérode, Jean est mis au fer. On l'envoie à Machéronte, et c'est dans cette forteresse qu'il est mis à mort. Ambroise de Milan a parlé aussi de la même question en disant « Le juste, immolé par des adultères, le prophète devenu salaire d'une danseuse. Roi féroce, c'est moins le coup mortel qui a porté ses yeux que ta lubricité. Cette bouche dont tu ne tolérais pas les remontrances, regarde-la, elle est muette et tu la crains encore. Et il y a un très beau texte aussi de Jean-Baptiste Massillon, ce fameux prédicateur qui était membre de l'Académie française, était archevêque de Clermont. Il est mort le 28 septembre 1742 et qui a écrit d'ailleurs cette oraison funèbre de Louis XIV. C'est lui qui a prêché ou fait l'oraison funèbre de Louis XIV. Il avait commencé comme ça, c'était extrêmement audacieux. Dieu seul est grand. Quand on pense à toute la cour qui l'écoutait, et qui se pavanait et qui se croyait très importante, les gens, les ducs, les princes, etc., se pensant très très importants, et le roi Louis XIV s'étant lui-même pensé, du moins à certains moments, plutôt très important, mais il en souffrait beaucoup. Et puis un jour, on en parlera. Commencer l'oraison funèbre en disant « Dieu seul est grand », c'est très audacieux. Et Jean-Baptiste Massillon parle du martyr de la vérité. Il dit « Hérodiade n'est touchée ni de la sainteté de Jean, ni de la dignité de son ministère, ni de l'admiration de toute la Judée qui le regarde comme un prophète. » Jean-Baptiste la reprend. Il condamne le scandale de sa passion et de son inceste. Il ose lui reprocher la honte dont elle ne craint pas de se couvrir à la face de toute la Palestine, malgré son rang et sa naissance. Et il faut que son sang expie le crime de cette liberté. Telle est la destinée de la vérité, toujours odieuse, parce qu'elle ne nous est jamais favorable. Les grands, imaginez, c'est toujours le prédicateur de la cour qui parle, les grands surtout, font comme une profession publique de la haïr, parce que d'ordinaire, elle les rend eux-mêmes très haïssables. Il lui donne toujours les noms odieux d'imprudence et de témérité, parce que l'adulation seule usurpe auprès d'eux le nom glorieux de la vérité. Trop heureux dans la dépravation des mœurs où nous vivons, de trouver encore des hommes qui osent la leur dire, mais encore plus à plaindre aussi de ne la connaître que pour la mépriser, et de se croire au-dessus de la vérité, parce qu'il se voit au-dessus de tous ceux qui la leur annoncent. Pour nous, mes frères, aimons la vérité, lors même qu'elle nous condamne. J'aime bien cette phrase. Pour nous, mes frères, mes sœurs, aimons la vérité, lors même qu'elle nous condamne. Ce sont de ces phrases de ces grands prédicateurs français du 18e siècle, qui sont parfois de pure merveille. Et Jean-Baptiste de La Salle, Saint Jean-Baptiste de La Salle, qui a fondé les frères des écoles chrétiennes, dans sa 62e méditation disait « Le zèle hardi et infatigable qu'a fait paraître Jean-Baptiste pour détruire le péché a été la cause de sa mort. Voilà quel a été le fruit de ce grand saint et de ses prédications. Est-ce là la récompense que vous espérez dans votre emploi? Souhaitez-vous d'y souffrir beaucoup, d'y être grandement persécuté et d'y mourir enfin, après avoir travaillé de toutes vos forces et de toute votre âme à la destruction du péché? » Quand on parle de péché, les gens n'aiment pas ça. Mais ça existe. Hein? C'est-à-dire que c'est cette façon de ne pas répondre à l'amour que Dieu nous porte. Et de ne pas écouter, en fait, ces précieux conseils de bonheur qu'il nous donne avec tout son cœur, toute sa tendresse, nous conseillant de suivre certaines choses, on appelle ça des commandements de Dieu, nous conseillant de suivre ces conseils profondément jusqu'au tréfonds de notre être, afin de trouver le bonheur et la liberté. Car ces règles-là ne nous empêchent pas de vivre, au contraire. Elles nous font grandir. Je l'ai eu dans l'expérience de tout mon travail, toute ma vie, où j'ai rencontré plusieurs saints. Et les saints, je le répète, sont les gens les plus heureux que j'ai rencontrés, les plus libres, les plus libérés jusqu'au fond de leur être. Ils ne vivent pas sous le poids d'habitude, sous le poids de vains désirs. Ils vivent dans une lumière intérieure qui les rend parfaitement heureux. Et nous allons parler maintenant de Saint Alexandre. C'était sa fête hier, mais j'en parle aujourd'hui, très brièvement. C'est un évêque de Constantinople, donc un évêque que l'on dirait aujourd'hui orthodoxe. Évêque de Constantinople, mais il est mort longtemps avant que la Sainte Église orthodoxe soit séparée de la grande et sainte Église catholique au XIe siècle. Nous sommes au IVe siècle, car il est mort vers l'an 336. Et c'est une vie très étrange que celle d'Alexandre, Saint Alexandre. Il était évêque vers 313. Et c'était un très grand adversaire d'Arius, qui a créé ce qu'on appelle l'arianisme, dont je vous ai déjà parlé maintes fois, particulièrement lors de la fête de Saint Athanase. Et alors, il a pris part au grand concile de Nicée en 325, où les théories de cet Arius, ce novateur, ont été condamnées. Et après les fêtes de l'inauguration de ce concile dans la capitale impériale, Alexandre a changé son titre d'évêque de Byzance pour celui d'évêque de Constantinople en l'an 330. Constantinople en l'honneur de qui? Ben, de l'empereur, évidemment, Constantin, qui avait opté pour la foi chrétienne, la foi catholique, la foi orthodoxe, si vous voulez, la grande foi chrétienne de l'époque. Et en 336, 6 ans plus tard, l'année de la mort de Saint Alexandre, Arius avait regagné la faveur de l'empereur Constantin. Constantin penchait du côté d'Arius et de l'arianisme. Alors on a demandé à Alexandre d'admettre cet hérétique, ou cet hérésiarque, comme on dit, Arius, dans sa communion, c'est-à-dire à l'intérieur de la tradition, celle du concile, quoi. Mais cet évêque de Constantinople n'aimait pas l'idée. Alors il a prié longuement. À l'aube du dimanche où devait avoir lieu la réhabilitation d'Arius, il a appris la mort subite de cet Arius, qui était survenu, écoutez bien ça, c'est assez curieux, par suite d'une rupture d'intestin alors que ce mécréant, dit le texte ancien, voulait satisfaire un besoin. Bon. Alors, Saint Grégoire de Nazianze, dont je vous ai déjà parlé, oui, s'écriait là-dessus, avec son éloquence grecque et orientale, « Vous n'oubliez pas cette prière apostolique qui a fait disparaître le chef de l'impiété dans des lieux bien dignes de cette langue tout impure, pour que l'opprobre vengeât l'opprobre, et que la mort injuste de tant d'âmes fut punie par une juste mort menant à une éternelle infamie. » Voilà comment des grands-pères de l'Église parlaient avec beaucoup de diplomatie d'une mort terrible. Saint Alexandre est mort quasi centenaire après 23 ans d'épiscopat, vers 336. Mais ces chiffres, dit-on, ne sont pas absolument certains. Je voudrais maintenant vous parler d'une sainte, Sainte Sabine. L'église Sainte Sabine à Rome a gardé jusqu'à nos jours son architecture, sa physionomie du 5e siècle. C'est une chose à voir à Rome, Sainte Sabine, c'est très beau. C'était commencé sous le pontificat du pape Célestin Ier et elle a été terminée assez rapidement, sous le pape suivant, Sixte III, c'est-à-dire que ça a pris environ 12-15 ans, ce qui n'est pas long pour l'époque de construire une basilique comme ça. C'est une basilique à trois nefs, dont les proportions sont magnifiques, c'est excellent. Mais il y a des irrégularités qui sont dues au fait qu'on a construit sur des ruines d'édifices antérieurs, qu'on a voulu respecter un peu les formes des édifices précédents. Mais j'ai pas à faire ici l'histoire d'un monument. Je veux simplement rappeler que Saint-Dominique est venu habiter dans le château fort qui était construit auprès de cette basilique et que le 5 juin 1222, Honorius III a confirmé la cession de tout cet ensemble magnifique à l'ordre des frères prêcheurs des Dominicains qui l'occupent toujours. Sabine était vraisemblablement, d'après ce qu'on peut conclure, une riche dame qui a donné une maison pour établir une église dans le quartier aristocratique de l'Aventin à Rome, le Mont Aventin. Et le titre qu'elle avait fondé, ou l'église qu'elle avait fondée, porta son nom et, suivant une évolution bien connue, c'était l'occasion pour elle d'être appelée sainte au bout d'à peu près 200 ans. Bon, elle n'a donc pas été canonisée pour de vrai, comme on dit en langage ordinaire, mais on peut avoir du grand respect pour une femme qui consacre sa fortune pour construire une église aussi belle, pour permettre aux gens de prier et de recevoir l'Eucharistie. Et si l'hypothèse que nous avons exposée peut sembler fausse, mais je ne pense pas, on peut se référer à un texte qui a été écrit plus tard, qu'on appelle la Passion de Sainte Sabine, et c'est plutôt étrange. C'est une passion qui a été écrite ou fabriquée presque de toutes pièces au VIe siècle, donc à peu près, disons, 200 ans plus tard. Et je vais garder les éléments essentiels. Bon, je passe par-dessus toutes sortes de détails. C'est la passion de Sainte Sabine et de Sainte Sérapie. Alors, les noms des deux saintes, leur anniversaire et... tout ça, on peut passer par-dessus ça. De toute façon, d'après la légende, Sérapie, vierge d'Antioche, demeurait chez Sabine. Et le juge l'a fait comparaître. Il a essayé vainement de la faire violer. Puis il l'a fait décapiter le 29 juillet et Sabine a enseveli Sérapie et elle, à son tour, a été martyrisée quand? Le 29 août. Le 29 août, on ne sait pas trop de quelle année exactement. Au VIe siècle, Sabine apparaît sur les mosaïques de Saint-Apollinaire le Neuf de Ravenne. Je vous ai déjà dit un mot de Ravenne, dans le nord de l'Italie. Il faut visiter ça. Quand vous allez en Italie, tâchez d'obtenir qu'on vous mène à Ravenne pour voir des églises parmi les plus belles de toute l'histoire du christianisme. Il y a tout un ensemble de basiliques et d'églises, là, c'est assez étonnant, à Ravenne. Mais Saint-Apollinaire le Neuf, c'est magnifique, et là, vous verrez Sainte-Sabine. Elle est dans un cortège absolument majestueux des saintes femmes, mais elle reste bien mystérieuse. Et maintenant, nous passons à un autre saint très ancien, Saint Seb, S-E-2-B-E, qui était roi d'Essex, donc en Angleterre. Il serait mort en 693. Il a régné sur les Saxons. Oui, les Saxons, les ancêtres des Anglo-Saxons, des Anglais d'aujourd'hui. Sur les Saxons d'Essex, en Angleterre. Il a régné de 665 à environ à 694, donc près de 30 ans. À cette époque, un roi qui régnait 30 ans devenait très très important. Saint Bède, le fameux Saint Bède, dans son histoire ecclésiastique, au chapitre 4, parle de lui en ces termes-ci, je cite. C'est un texte assez sympathique. « C'était un homme très dévoué à Dieu que Saint Bède. Ses actes étaient inspirés par la religion. » Il parle d'un roi. « Il priait souvent, prévoyait les pieux rendements de ses aumônes. Il préférait une vie privée de caractère monastique à toutes les richesses et tous les honneurs du royaume. Il aurait même embrassé celle-ci depuis longtemps et laissé le royaume si sa femme n'avait refusé la séparation avec ténacité. Beaucoup disaient et répétaient qu'un tel homme était plus fait pour l'épiscopat que pour la royauté. » Dans l'histoire de l'Église, on trouve plusieurs rois comme ça, plusieurs dignitaires, et je vous ai déjà glissé un mot de ces archiduchesses d'Autriche au XXe siècle qui appartenaient à la cour d'Autriche qui était la cour la plus somptueuse du XXe siècle à Vienne. C'était les filles de l'empereur François-Joseph et toutes trois dans les années 20 sont entrées à l'abbaye de Solesmes, Sainte-Cécile de Solesmes, l'abbaye mère des bénédictines que l'on retrouve à Saint-Eustache. Elles sont mortes moniales, toutes les trois. Sur son lit de mort, le roi Seb, Saint-Seb, a demandé à sa femme si elle acceptait qu'ils se consacrent tous deux au Seigneur. Et là, elle y a consenti à grand-peine. Alors, il a prié l'évêque de Londres de lui donner l'habit religieux si longtemps désiré. Curieux, c'est au VIIe siècle. Aujourd'hui, nos religieux ne veulent plus porter d'habit, même pas sur les lieux de leurs églises ou de leur, comme à l'oratoire Saint-Joseph, on ne voit jamais d'habit religieux. C'est dommage, dans un sens, je crois. Dommage. Car les pères de Sainte-Croix sont si sympathiques, mais on ne les reconnaît plus, on ne sait plus où ils sont. Alors donc, il l'a obtenu, et puis il a confié à l'évêque une grande somme d'argent pour les pauvres. Saint-Seb tenait à mourir dépouillé. Et l'agonie étant proche, le roi Seb a craint les effets du délire, qui aurait pu le forcer à dire ou faire quelque chose qui aurait été plutôt inconvenant. Alors, il a tenu à n'avoir auprès de lui que l'évêque de Londres et deux ministres. Et assoupi, il eut une vision consolante, et il a su qu'il mourrait 3 jours plus tard, puis il est mort au jour annoncé, doucement et sans douleur, en 694, et il a été enterré à Londres. Je passe maintenant à Saint-Merry. Plusieurs d'entre vous qui êtes allés à Paris avaient entendu le nom de cette paroisse, Saint-Merry. C'est un abbé, c'est-à-dire le chef d'un monastère, quoi, un abbé. Non pas un abbé comme prêtre séculier, je le signale pour certaines personnes qui ignoreraient le terme. Il est mort vers l'an 700. Le 29 août 884 a eu lieu à Paris ce qu'on appelle l'élévation du corps de Saint-Merry. Bien longtemps, plus de 1000 ans. L'évêque Gozlin n'a pas assisté à la cérémonie, où il s'est fait représenter par ses archidiacres, mais tout le clergé, le peuple était venu à la fête, car Saint-Merry n'était pas un inconnu. Quelques années auparavant, un moine de Saint-Germain-des-Prés, usuaire, avait composé un martyrologe, une liste de tous les martyrs et les saints, n'est-ce pas? Puis il l'avait inséré là-dedans, dans son martyrologe. Mais son culte n'est pas devenu tout à fait très très populaire tout de suite, puisque l'église où il était enterré était encore dédiée à Saint-Pierre et que sa vie n'était pas écrite, la vie de Saint-Merry. Mais un anonyme a comblé cette lacune, si on peut dire. C'est des vies qui sont écrites un peu trop longtemps après la mort du saint. En tout cas, on peut croire qu'il a utilisé des traditions assez anciennes, mais on ne doit pas oublier qu'il écrivait 2 siècles après la mort de Saint-Merry, et qu'il aimait un peu trop les clichés pieux, puis les développements un peu de sermonneurs. Hein? C'est pas moi qui parle, ce sont les grands spécialistes des vies de saints qui racontent ça, là, les bollandistes, les grands bénédictins de Paris, etc. Je ne fais que vous rappeler ce que disent les spécialistes des vies de saints. Alors, il était né de parents, toujours comme on dit, ses parents nobles, à Autun. Ah, il faut aller à Autun, il y a une belle église à Autun, avec un beau tympan. Ouh, chose étrange, on avait perdu la tête du Christ au tympan et on l'a retrouvé. C'est un chanoine que j'avais interviewé, là, qui l'a retrouvé, cette tête. Par hasard, quand il a placé la tête sur le Christ, c'était exactement cette tête-là. Il l'avait retrouvée à Paris. Absolument phénoménal. Et alors donc, ce Merry, Saint-Merry, qu'on appelle aussi Saint Médéricus. Médéricus, ça vous rappelle quelque chose, les gens plus âgés? Oui, Médéric Martin, qui était maire de Montréal, portait le nom de Saint-Merry, Saint-Médéric. Je sais pas s'il est ce nom-là, Médéric, finalement. Comme Frédéric, quoi. Médéric. Alors donc, il est entré très jeune dans un monastère de la ville, probablement à Saint-Martin, à Autun,
où l'on retrouve quelques traces d'un culte qui lui a été rendu beaucoup plus tard. Et les vertus de Saint-Méry ont attiré l'attention sur lui. À la mort de l'abbé de ce monastère de Saint-Martin, l'évêque l'a désigné pour succéder à cet abbé. Malgré les protestations de son humilité, Méry a montré sa sainteté, sa puissance contre le démon. Un moine, raconte-t-on, qui était tourmenté par des graves tentations, a été délivré. Comment? Simplement en revêtant une tunique de notre abbé Saint-Méry. Et puis un autre avait été délivré par du pain qu'avait béni notre abbé. On raconte ça. Pourquoi pas? Moi, je connais des choses qui sont arrivées qui ressemblent beaucoup à ça, aujourd'hui, au XXe siècle. En tout cas, effrayé des honneurs qu'on lui rendait, Méry s'est enfui dans la solitude. Alors, les moines sont venus le supplier de rentrer au milieu d'eux. Mais il a fallu que l'évêque le menace d'excommunication pour que s'il décide à reprendre sa charge, imaginez. Et là, la vieillesse est un motif pour lui, pour faire accepter sa démission. Il s'est mis en route pour Paris en compagnie d'un de ses disciples, qu'on appelle Frodulfus ou Frou, comme Froufrou, là. Tout simplement. Et je vous en parlerai au mois d'avril de ce saint Frou. C'est un saint intéressant. Et il s'est arrêté au monastère de Champeau, près de Melun, où il s'est rendu, là, puis il a délivré miraculeusement les prisonniers. On dit qu'il a dû séjourner quelque temps à Champeau, près de Melun, retenu par la maladie, puis a continué son voyage dans un chariot. À bon oeil, il a obtenu du juge la libération encore de deux prisonniers. Alors, les gens qui sont en prison et qui m'écoutent pouvaient invoquer ce saint Méry, M-E-2-R-Y, qui libère des prisons. Et vous tous, comme moi, qui nous sentons emprisonnés en nous-mêmes, par tous nos défauts, nos péchés, notre passé, notre présent, on peut demander la libération à Saint-Méry. En tout cas, il a traversé le pont de Charenton pour gagner Paris. Il s'est fixé hors de ce qu'on appelle la cité, c'est le cœur de Paris aujourd'hui, près de la chapelle Saint-Pierre-des-Bois. Il a passé les dernières années de sa vie, puis il est mort un 29 août, vers 700, puis il a été enterré. Donc, après l'élévation des reliques dont je vous ai parlé au début, en 884, Saint-Pierre a été rapidement oublié pour laisser la place au seul Saint-Méry, puisqu'il était enterré dans une église qui s'appelait Saint-Pierre. L'église a grandi et est devenue paroisse avant le 12e siècle, puis a été reconstruite vers l'an 1200, puis de nouveau au 16e siècle, elle fut modifiée au 18e, et la chasse du Saint-Patron a été ouverte, oh mon Dieu, 5-6 fois, hein? Mais le 21 août 1792, elle a été envoyée à la monnaie. Saint-Méry est bien un peu oublié aujourd'hui. Et dans tout l'ancien diocèse de Paris, il était très populaire. Et plusieurs églises lui ont été dédiées. On l'invoquait, chose étrange, pour les douleurs d'entrailles, les maux de ventre. Le fait d'être prisonnier, de se sentir prisonnier, ça peut donner mal au ventre, hein? C'est l'occasion de l'invoquer. Donc, pour surtout notre libération intérieure, et pour qu'on accepte, comme lui, les grâces que Dieu nous envoie, et de répondre à la présence de Dieu en nous. C'est aussi la fête aujourd'hui de deux martyrs qui sont morts avant l'an 741. Saint, un nom très curieux, Hypas, n'appelez pas votre enfant Hypas de grâce, H-Y-P-A-C-E. Et l'autre saint a un nom très connu, André. Alors les André, bonne fête, hein? Dans ce qu'on appelle le synaxaire, ou si vous voulez, le martyrologe là, de Constantinople, aujourd'hui Istanbul, là, en Turquie, c'est une grande ville chrétienne, comme on l'a vu tout à l'heure, on a parlé de Saint Alexandre, l'évêque de Constantinople. Alors, on y commémore le 20 septembre nos saints-pères et confesseurs Hypatios et Andreas. Ils étaient nés chez les Tracétiens, en Lydie, c'est-à-dire dans l'Asie mineure occidentale. Ils ont été élevés dans un monastère. Alors, Hypas a reçu l'habit monastique, et lui, André, a préféré, c'est assez curieux pour l'époque, la vie apostolique. Écoutez ça, il est devenu lecteur à l'église. Alors vous tous là qui lisez à l'église, pouvez invoquer ce saint André aujourd'hui, qui vous donne une meilleure voix, une meilleure diction, une meilleure surtout, une meilleure lecture intérieure, pour que les gens comprennent bien les textes sacrés que vous lisez. Je le dis aussi aux prêtres, invoquez ce saint André, pour qu'il vous donne de lire l'évangile avec encore plus de conviction et de profondeur, afin que le Christ qui passe par votre bouche, lui qui est le Verbe, atteigne les oreilles de notre cœur et de nos âmes, et nous fasse vivre davantage. Nos deux saints, Hippas et André, se sont adonnés à l'ascèse la plus dure, tout en cultivant, comme tous les saints, l'humilité et la charité. Et leurs vertus ont été bientôt connues à Éphèse. Oui, oui, à Éphèse, où saint Paul est allé. Ils ont été promus. Hippas est devenu évêque et André est devenu prêtre. Et alors, Léon III, l'Isaurien, je vous en parlerai un jour, qui était un basileus, un roi, si vous voulez, impie, qui a régné très longtemps, de 714 à 741, il les a déportés à Constantinople. Et ils ont été emprisonnés, bâtonnés, déchirés, à demi-tués. On leur a enlevé, imaginez, la peau de la tête, et on a brûlé des icônes sur leur crâne, car c'était à l'époque de la grande lutte autour du problème des icônes, cette grande guerre épouvantable qui s'est tenue entre ceux qui craignaient que les icônes deviennent des idoles et des objets d'un culte qui débordait la vraie foi, et ceux qui étaient les tenants des icônes qu'on vénérait avec beaucoup de tendresse et d'amour, comme on peut vénérer la photo de notre fils, de notre mère, de notre mari, de notre femme. Et alors on a promené nos deux martyrs, Hippas et André, dans toute la ville de Constantinople, après leur avoir enduit la barbe de poix, P-O-I-X, là, vous savez. Et enfin on les a égorgés, et on les a jetés aux chiens. C'est aussi la fête de Gebre Michael. C'est un prêtre éthiopien qui est mort en 1855, de façon extrêmement pénible. C'est une triste histoire. Je vous la raconte quand même, mais je ne voudrais pas offenser nos frères coptes éthiopiens, pour lesquels j'ai un très grand respect, eux qui ont maintenu leur foi dans mille et une difficultés. Ça prendrait un bien long récit pour évoquer bien vanablement cette existence de Gebre Michael. Gebre, c'est G-H-E, accent grave, Gebre, B-R-E, accent grave, Gebre ou Gebre. Parce que c'est une vie merveilleuse, dans somme, un grand courage, c'est tout rempli d'événements, c'est animé tout au long par l'amour de la vérité, l'amour de la vérité, à travers un contexte politico-religieux qui était très complexe. Comme ça a toujours existé, la politique s'insère dans les problèmes religieux et renverse les choses et suscite bien des martyrs. Gebre Michael est né vers 1790, donc au moment de la Révolution française, dans le Godjam, au nord de l'Éthiopie. Il est devenu moine dans l'église copte. Les moines dans l'église copte éthiopienne, autant que dans l'église copte d'Égypte, ont une énorme importance encore aujourd'hui. Beaucoup plus que nos moines dans notre église, bien que nos moines demeurent des gens extrêmement importants, tant en France qu'en Allemagne et dans tous les pays d'Europe, et ici même, au Québec, nos moines sont importants. Mais là-bas, c'est extrêmement important. Il s'est donc devenu moine. Il a étudié plusieurs années la théologie à Gondar, puis il a commencé à s'interroger sur un problème très grave qui est la christologie, l'étude de la théologie qui concerne le Christ dans l'église copte. Il s'est rendu compte qu'il y avait là une petite faille qui a fait que cette église est séparée de la grande église catholique. Alors au cours d'un pèlerinage vers Jérusalem, il a rencontré au Caire en Égypte, évidemment, en 1841, il avait donc 51 ans environ, le vicaire apostolique latin, qui s'appelait Justin de Jacobis. L'influence de ce vicaire apostolique a encouragé l'évolution commencée au cœur de notre Guébré Michael, notre moine. Et de retour en Éthiopie, retour de Jérusalem, bien Guébré Michael s'est heurté au métropolitain, c'est-à-dire à l'archevêque copte Salama. Mais il a été protégé par l'empereur Ioannès. L'empereur avait un énorme pouvoir spirituel. On l'a vu dans le temps, nous les plus âgés, de l'empereur Sélassie. Sélassie qui a été démis de son trône et assassiné il n'y a pas tellement longtemps. Alors notre moine a décidé, en 1844, donc 3 ans plus tard, de passer à l'église catholique romaine. Il a été suivi par de nombreux prêtres et moines éthiopiens coptes. Et il a été ordonné prêtre catholique en 1851, puis il est entré dans la congrégation de la mission afin de solidifier sa foi et sa formation théologique. Et c'est alors qu'en 1854 est survenue une révolution de palais qui a renversé la situation. Il y a eu un nouvel empereur qui s'appelait Théodoros, qui était totalement favorable au métropolitain, à l'archevêque Salama et à l'église nationale copte. Il voulait éviter cette introduction d'un certain pouvoir occidental qui venait évidemment en même temps que l'église latine. Il faut dire aussi que l'église latine, notre église catholique, exerçait parfois une espèce de façon d'agir qui était, à mon avis, un peu trop de convertisseur, hein, plutôt que d'essayer de se rapprocher des coptes séparés afin de les mieux comprendre et de mieux les aimer, comme notre pape actuel fait. Jean-Paul II est un pape à l'écuménisme extraordinaire. Il ouvre les bras avec tout son cœur à tous les gens de toutes les religions. Il sait les réunir tant à Assise, les recevoir au Vatican, les aimer, prier avec eux. Et c'est ce qu'il faut faire, s'aimer. Et c'est peut-être le tort de nos anciens missionnaires. On ne peut pas les blâmer, c'était la coutume à l'époque. Et Guébré Michael, notre moine, a été emprisonné, torturé, condamné à mort, et sa peine a été commuée finalement à la demande du consul d'Angleterre, qui était probablement un anglican. Mais il est mort dès 1855, l'année suivante, épuisé par les souffrances endurées. Et il a été béatifié en 1926. C'est une occasion pour nous, en ce 29 août, anniversaire de sa mort, de prier, de le prier que nous comprenions mieux nos frères coptes. Il y a des coptes à Montréal, tant catholiques que coptes dits orthodoxes, et prions avec eux pour l'unité de l'Église. Un autre martyr anglais de 1628, il y en a beaucoup qui sont morts en 1628, 1629. Richard ou Richard Hurst, ça s'appelle H-E-R-S-T, mais ça peut, au lieu du E, on peut mettre un U, H-U-R-S-T. Et d'autres, on trouve aussi dans de vieux textes, Hayhurst, H-A-Y, H-U-R-S-T. Je le signale au cas où vous connaîtriez des Anglais de ce nom de famille. Il était né près de Preston, dans le comté de Lancaster, au nord de la région industrielle de Liverpool. Hein.
Et écoutez bien ça. Nous tous qui descendons, moi je descends de laboureurs, hein, quoi, de paysans. Mon grand-père est né sur une ferme, dans la région de Sorel. Ma grand-mère, son père, qui était notaire, bon, est né sur une ferme, à Saint-Rémy-Napierville. Alors les laboureurs sont pas loin, hein. Le fumier non plus. Alors c'était un riche laboureur qui s'est montré catholique insoumis à l'anglicanisme officiel de l'époque. Hein. L'anglicanisme, c'est la religion catholique séparée de Rome vers 1532 à la suite de Henri VIII qui voulait épouser quelqu'un alors que le pape s'opposait à son divorce, le divorce n'étant pas permis dans l'Église catholique. Et l'évêque de Chester, mais c'est plus compliqué que ça aussi l'anglicanisme, il faudrait qu'un jour je vous parle avec beaucoup de respect de cette grande Église anglicane, qui est une Église sœur, et dont une partie est demeurée franchement d'esprit catholique, une autre partie est franchement d'esprit protestant. Donc l'évêque de Chester, c'est le chef-lieu du comté au sud de Lancaster et oui, de Liverpool, lui a envoyé un certain Norcross, qui était accompagné d'un dénommé Wilkinson et d'un autre Dewhurst, pour l'arrêter. Et les trois l'ont trouvé en train de labourer. C'est intéressant, cette vie d'un paysan très croyant, d'un bon habitant, quoi. Alors Wilkinson a frappé Hurst. Et à cette vue, une fille qui travaillait dans le champ a couru pour alerter sa maîtresse, qui est arrivée avec un garçon de ferme et un autre homme. Et Wilkinson a renversé ces deux assaillants-là. Mais la jeune fille très courageuse a frappé Dewhurst à la tête. Alors, les deux acolytes, si on pourrait dire, de Norcross se sont enfuis. Mais Dewhurst, qui était un des attaquants, est tombé, s'est cassé une jambe. Et 13 jours plus tard, il est mort. Après avoir déclaré que sa chute était purement accidentelle, il s'était un homme honnête, même s'il exerçait une espèce de pouvoir policier d'arrestation. Car à l'époque, on craignait que les catholiques ne se range du côté des pouvoirs de l'Europe continentale, c'est-à-dire de la France et de l'Espagne, pour envahir l'Angleterre. Et c'est toujours des questions politiques qui sont en arrière de ces querelles de religion. Hein. C'est comme quand on dit, je vous le rappelle, en Irlande du Nord, les catholiques, les protestants, c'est beaucoup plus des gens qui veulent la liberté de l'Ulster, en l'unifiant à l'Irlande libre du Sud, ce sont des patriotes irlandais, aux autres qui sont des patriotes fidèles à la couronne d'Angleterre, parce qu'ils sont de souche protestante et viennent de l'Écosse en particulier, et de l'Angleterre. C'est une question politique, m'ont dit les catholiques, les protestants. J'espère que jamais ici au Canada on parlera pour l'indépendance du Québec des catholiques qui s'opposent aux protestants. Vraiment, ça n'a pas de sens. Et alors donc, 13 jours plus tard, il est mort et puis Hurst, notre laboureur, est inculpé de meurtre. Le jury ne voulait pas le condamner, mais on a insinué qu'il fallait faire un exemple. Et une demande de sursis a été adressée au roi Charles Ier. La reine Henriette Marie de France l'a appuyée, mais sans succès. On a offert la vie à Hurst en échange d'un serment qui était condamné par l'Église catholique. Et il a préféré la mort. Écoutez bien, ça c'est très bouleversant. Il a écrit à son confesseur, « Je vous prie de vous souvenir de mes pauvres enfants. » Il y avait des petits-enfants, plusieurs. Un père qui écrit ça, c'est très beau, approche de la mort. Hein. « Je vous prie de vous souvenir de mes pauvres enfants et de rassurer mes amis sur mes dettes. Qu'on sache bien que mon plus grand souci en ce monde est de les satisfaire autant que mes moyens le permettront. » Il avait des dettes, il était pauvre. Il continue, « Ma chair est craintive. » C'est beau, hein? Ma chair, mon corps, quoi. Il est craintive et apeuré. Mais je, c'est-à-dire son âme, je trouve un grand réconfort spirituel à me jeter près de mon doux sauveur avec un très fervent amour. Quand on parle de l'amour au XXe siècle, on connaissait pas ça, l'amour, on avait peur de Dieu. Mais non, l'amour existait dans ce temps-là, un amour profond. Regardez, c'est un paysan qui aime le Christ Jésus d'un amour profond, avec un très fervent amour, écrit-il. Que c'est beau. Quand je considère, continue notre paysan Hearst, là, quand je considère ce qu'il a fait et souffert pour moi, mon plus grand désir est de souffrir avec lui. J'aurais mieux aimé mourir mille fois que de posséder un royaume et vivre en péché mortel. Qui dit ça aujourd'hui, hein? J'aurais mieux aimé mourir mille fois que de posséder un royaume et vivre en péché mortel. Il était comme Saint-Louis, hein, dont on a parlé le 25, là. Que c'est beau, ces saints-là. Il continue. Il n'y a rien de plus détestable pour moi que le péché. Et cela uniquement pour l'amour de mon Sauveur. Pour lui, le péché, c'est quoi? C'est une offense contre l'amour. C'est pas une question de loi, de règles et de juge. Pas ça. C'est aller contre l'amour de Dieu. Donc, en route pour la Patence, le 29 août, il a jeté un long regard à la tête du bienheureux Edmund Arrowsmith, qui était exposé au mur du château, puis il a dit, « Je regarde la tête de ce bienheureux martyr que vous avez envoyé devant pour nous préparer le chemin. » Alors un ministre le questionnait, il a répondu, « Je crois selon la foi de la Sainte Église catholique. » Et au pied du gibet, il a prié. Puis, voyant le bourreau un peu embarrassé avec sa corde, parce que vous savez que les bourreaux, ils obéissaient à la loi, et souvent, ils aimaient pas tout ça, ce que la politique les obligeait à se faire entre chrétiens. C'est pas facile, hein? Alors, il dit au bourreau, « Attends, Tom. » Il s'appelait Thomas, hein? « Attends, Tom. Je vais monter, et je vais t'aider. » Formidable. « Je vais monter, et je vais t'aider. » Il laissait derrière lui 6 jeunes enfants. Un 7e n'était pas encore né. Et il a été béatifié en 1929, après plus de 300 ans. Mais on peut dire que les agriculteurs, nos habitants, là, vous m'écoutez, là, vous qui êtes encore sur des fermes, heureusement sur des fermes, qui voyez toute la nature qui jaillit, c'est le fruit de votre travail, hein, qui travaillez avec Dieu, quoi. Vous savez que Dieu n'est pas pressé. Vous savez que quand vous semez au printemps, c'est rien qu'à l'automne que vous récolterez. Dieu n'est pas pressé. Durant la fin de semaine dernière, je lisais des beaux textes de Louis de Blois, des traités ascétiques, le miroir de l'âme, puis la consolation des âmes craintives. C'est si beau. Et je lisais ce beau texte et je vais vous en faire part. C'est sur la sainteté. Si nous prenons l'habitude de conformer notre volonté aux actions du Christ et que nous en fassions hommage à Dieu, il s'empressera dans sa bonté d'agréer cette intention comme l'œuvre elle-même, bien que nous soyons incapables de l'accomplir. Et vous verrez la paix singulière, la grâce, la douce liberté, la joie, la dévotion et l'amour que vous ressentirez par ce moyen en votre très aimé Créateur. Souvent un cri du cœur, une courte prière vous remettra dans ses dispositions. Et voilà ce qu'il écrit. « Ô Dieu, Seigneur très aimant, puisse-je être toujours agréable à votre tout aimable volonté. Puisse-je en tout vous témoigner l'amour le plus élevé et le plus constant. » C'est pas d'aujourd'hui, à date de siècles et de siècles.